Vous écoutez Radio Auraviv, la radio plus près de vous, et c'est le moment de retrouver l'émission Le Temps de l'Histoire, présentée par Gérard Levin, en collaboration avec Radio Colaviv Toulouse.
Bonjour, voici votre émission Le Temps de l'Histoire. Nous allons nous enfoncer un peu plus vers le continent asiatique. Aujourd'hui, je vais vous parler des Juifs du Caucase, les Juifs des montagnes. La région du Caucase a de tout temps revêtu une importance majeure pour les empires russes et ottomans, tant sur le plan stratégique qu'économique. Depuis le XVIIe siècle, la Russie y a régulièrement livré des guerres sanglantes, la dernière en date étant celle de Tchétchénie, qui prit officiellement fin en 2009. Nous disposons sur les Juifs du Caucase, surnommés les Juifs des montagnes, diverses sources historiques, tant juives que non juives. Cela dû au rapport d'officiers militaires, de géographes et de marchands russes qui, dès le XVIIIe siècle, ont investi cette région. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, succède le premier livre entièrement consacré à l'histoire de ces populations, dû à la plume d'un certain Ilya Anisimov, fils d'un rabbin de Temir Ransura, aujourd'hui au Dagestan, ayant reçu une éducation russe. Ouvrage publié en 1888 par le département russe aux affaires caucasiennes, s'attarde notamment sur les relations difficiles entre juifs des montagnes et juifs ashkénazes. À en croire les traditions locales, les communautés juives du Caucase seraient parmi les plus anciennement implantées en dehors de la terre d'Israël. Les juifs des montagnes se considèrent en effet comme les descendants des Israélites déportés par les Assyriens en -696. Autrement dit, comme l'une des tribus perdues, et ils auraient été rejoints par des Judéens déportés en Médie après la destruction du premier temple en -586. Les chroniques géorgiennes médiévales relatent ainsi que Nabuchodonosor exila une partie des captifs de Judée dans le sud de la Géorgie actuelle. Et d'après d'autres traditions, les Juifs ne seraient arrivés dans le Caucase qu'à partir de la destruction du second temple en 70, période qui correspond à l'apparition des communautés juives en Crimée. Les Juifs qui prirent la route de l'exil après la destruction du temple auraient alors rejoint les marchands juifs déjà installés dans la péninsule. De ce fait, les historiens géorgiens font mention de communautés juives primitives au premier siècle de l'ère chrétienne. La tradition orale des Juifs des montagnes remonte cependant bien plus loin dans le temps, puisqu'elle identifie le mont Arara, sommet le plus élevé du haut plateau arménien, à la montagne sur laquelle, selon la Genèse, serait venue s'échouer l'arche de Noé, et qui aurait également vu passer Abraham en chemin vers la terre promise. Plus au sud, sur les territoires de l'actuel Azerbaïdjan, l'arrivée des Juifs remonte, selon certains, à la fin de l'époque sassanide. Igor Semenovov estime que le noyau des Juifs des montagnes est apparu au VIe siècle, quand l'Empire sassanide a déporté les Juifs ayant participé à la révolte mazdakite, déportés depuis la Babylonie jusqu'au Caucase oriental. D'autres estiment que l'essentiel de l'immigration n'a pris effet qu'à partir de la conquête islamique au VIIe siècle. Le nom par lequel les Juifs des montagnes se désignent eux-mêmes est Jouhour, déformation persanophone de Yehoudi juif. Leur langue, le Jouhouri ou Judéo-Tat, est un dialecte persan qui a incorporé des mots hébreux et araméens. On les surnomme parfois Tat, mot péjoratif qui signifie sale, abandonné, misérable, et qui apparaît pour la première fois au 8e siècle. Certains chercheurs estiment que le terme désignait à l'origine des envahisseurs nomades d'origine mongole et qui aurait été ensuite appliqué aux Juifs du fait qu'ils ne parlaient pas les langues locales. La communauté juive la plus importante de la région résida en Azerbaïdjan. La région, anciennement sous domination mède, est peuplée de Juifs depuis le 1er siècle, vit sa population s'accroître lorsque les Sassanides du 3e au 7e siècle déportèrent nombre de Juifs perses dans cette province excentrée. Ils se consacraient essentiellement à l'agriculture, à l'artisanat et au commerce. Après la conquête islamique, à la fin du 7e siècle et du début du 8e, ils furent soumis aux règles du Dhimma. On ne dispose que de très peu de sources historiques sur l'histoire de ces juifs sous domination musulmane, arabe, puis perse. Et ceci juste avant la conquête russe. Maintenant, chers amis, je vous propose quelques minutes de musique locale.
Ve tuşso vezamo izavo so daima larha hoyol chukaja etsir seve khila malika khazakhiti bargashna dukhayzi hodagna yolah sega malika malika khazakhiti bargashna dukhayzi hodagna yolah sega malika Sadaqnade qitasuna sharalla larfa hodaima otakar tayxila malika qasxiti bargashna dukhayzi hodagna yolah sega malika malika qasxiti bargashna dukhayzi hodagna yolah sega malika Salah estayo taqhiru malika qasala visarna malika qasakhiti bargashna duqayzi hodagna yolah sega malika malika qasakhiti bargashna duqayzi hodagna yolah sega malika
Nous reprenons le fil de notre histoire. C'est Pierre le Grand. Je vous donne la date quand même, 1662-1725, pour que vous puissiez bien visualiser l'époque. Fondateur de l'Empire russe, qui le premier s'intéressa à la région de la Caspienne. De la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe, les tsars mènent plusieurs guerres pour prendre le Caucase à l'Empire perse déclinant. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la quasi-totalité des territoires du Caucase furent intégrés à la Russie et les Juifs reçurent l'autorisation de s'installer dans la région. À partir de 1892, cette tolérance fut restreinte aux Juifs qui travaillaient pour l'administration impériale et également à ceux ayant suivi des études supérieures, aux marchands et à ceux qui appartenaient à des communautés historiquement présentes sur ces territoires. C'est à l'époque de la conquête russe du Caucase que les Jew-Ours se voient affublés du surnom de Juifs des montagnes. En réalité, l'administration impériale désigne alors tous les peuples du massif caucasien comme des montagnards, y compris les habitants des vallées. Notre source estime que cette désignation visait à distinguer les populations juives locales des juifs ashkénazes, astreints à vivre dans la zone de résidence, c'est-à-dire la partie extrême occidentale de la Russie, incluant l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. Les juifs des montagnes résidaient principalement dans les vallées. Une cité dotée d'une communauté juive d'envergure, Temir Kansura, était à sa fondation au XIXe siècle une forteresse militaire russe où les juifs tant ashkénazes que du Caucase avaient obtenu le droit de résidence. Les ashkénazes y étaient plus nombreux que les juifs des montagnes Et il s'agissait de marchands chargés de ravitailler les troupes russes pendant les campagnes militaires, d'artisans, mais aussi de soldats qui avaient choisi de s'établir sur place à l'issue de leur conscription. Le rabbin de Temir Kansura, Rabbi Seber Ben Nissin, fut l'un des deux grands rabbins du Daghestan. Son fils, Ilia, qui vécut de 1862 à 1928, fut le premier juif des montagnes à recevoir une éducation russe. Ethnographe, homme de théâtre, ingénieur diplômé de l'école technique impériale de Moscou, il fut missionné à l'été 1886 par la Société archéologique russe pour une ethnographie des Juifs des montagnes et publia en 1888 en russe son livre « Les Juifs des montagnes du Caucase ». Il y dénombre une population de 21 000 Juifs des montagnes. Jusqu'à la fin de l'époque impériale, alors que les Juifs ashkénazes sont soumis à des politiques de plus en plus discriminatoires et à des pogroms, les Juifs des montagnes jouissent exactement du même statut que les autres groupes ethniques du Caucase. Ils ont le droit de disposer d'un lopin de terre, sont exemptés du service militaire et sont assujettis aux mêmes taxes que leurs voisins. Ceux qui sont passés par le système éducatif russe ou ont étudié auprès d'une autorité reconnue rejoignent généralement le rang des instituteurs. Au tournant du XXe siècle, le Caucase ne compte que 6 rabbins, dont 2 ont le titre de grand rabbin. Et ils ont pour tâche de superviser le recensement, de fournir des actes de naissance, de juger selon la loi juive, de dispenser un enseignement religieux dans la synagogue et d'ouvrir des écoles rabbiniques. Cet accès à l'éducation constitue une nouveauté pour ces communautés. Avant la conquête russe, l'instruction scolaire était considérée avec une grande méfiance, en particulier l'éducation à l'européenne, perçue comme une menace grave pour la tradition juive. La plupart des villages ne comptaient pas plus de 2 ou 3 personnes instruites auxquelles revenait la charge des archives communales. L'immense majorité était incapable d'écrire ou même de lire l'hébreu des textes sacrés et des livres de prière. Si l'époque russe connaît une progression éducative, celle-ci reste modeste. La vie reste fortement imprégnée de culture islamique. La polygamie, qui est bien qu'autorisée par la Torah, demeure essentiellement théorique dans le reste du monde juif et dans le Caucase relativement répandu, y compris chez les rabbins. Les épouses ont parfois chacune leur maison, mais font aussi foyer commun. Les habitations des villages et des villes sont sensiblement identiques à celles des voisins musulmans. Au début du XXe siècle, la région du Caucase est au diapason des autres grands bouleversements mondiaux et les Juifs n'y font pas exception. Le premier recensement de l'Empire russe de 1897 dénombrait 56 000 Juifs des montagnes et de Géorgie, soit 1,3% de la population du Caucase. Vous voyez que ce n'était pas très nombreux, mais ils étaient présents. Et de là, la population connaissait une croissance stable, puisqu'en 1913 et 1918, on comptait environ entre 30 et 38 000 Juifs des montagnes. Mais ces chiffres se réduisirent plus tard, en 1926, à la suite des politiques d'industrialisation et de collectivisation forcée. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la population était remontée à 34 000 âmes pour s'établir à 42 000 en 1959 et 50 000 en 1970, à la veille de la première vague d'immigration vers Israël. Le recensement de 2002 indiquait seulement 18 000 juifs pour le Nord-Caucase et 38 000 en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, les Juifs des montagnes vivent en Israël, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Géorgie, en Turquie, en Russie. La désintégration de l'URSS en 1991 et les guerres qui ont, à sa suite, secoué le Caucase ont été le facteur majeur de cette immigration. De très nombreux individus ont choisi de partir pour Israël. Depuis 1991, on compte ainsi 12 000 Juifs du Daghestan ayant fait leur alia, et la communauté juive des Juifs de montagne en Israël s'élève aujourd'hui, écoutez bien, entre 100 000 et 120 000 personnes. Pour autant, un certain nombre ont choisi de fuir les zones de guerre tout en restant dans la Fédération de Russie. Dès 1993, les Juifs des montagnes fondent une communauté à Moscou. et la synagogue Ben Tan Roun est érigée en 1998, ainsi que deux yeshivot dédiés aux garçons de la communauté. Ce processus culmine en 2015 avec la création, toujours à Moscou, de la Fédération russe des Juifs de montagne. Au total, la Fédération de Russie compte encore 20 000 à 30 000 Juifs des montagnes, alors que les États-Unis en dénombrent 20 000, l'Azerbaïdjan entre 5 et 7 000, les 3 000 restants étant répartis entre le Canada, l'Allemagne et l'Autriche. Ils vivent principalement à Vienne. Voici quelques nouvelles donc de nos coreligionnaires lointains. Au plaisir de vous retrouver. Merci.
Aura vive, plus près de vous.